Ma prédication ce matin prendra une tournure peu habituelle car elle sera un plaidoyer. Un plaidoyer pour la reviviscence, la reconsistance de notre pratique de membre d'Église. Membre d'Église, je devrais plutôt dire participant d'une ferveur, d'un élan de confiance en Jésus-Christ. Le Christ qui n'a pas voulu d'une église particulière, bien sûr, mais le Christ qui a donné au monde sa vie et son engagement et qui a été aussi le détonateur du plus grand phénomène religieux de l'histoire humaine. Le Christ, en référence duquel l'Église tente de se reconnaître. Et pour ce plaidoyer, je vais m'appuyer sur ce récit extraordinaire que vous venez juste d'entendre avant Schubert, du livre des Actes. Non pas que je vais m'appuyer dans ces détails, mais je vais prendre sa luminosité, sa force, sa provocation, son ivresse et aussi sa généalogie, son origine. Ce qui est raconté se déroule durant la fête de Pentecôte, en hébreu donc Shavuot, qui est l'une des trois grandes fêtes qui sont célébrées dans la tradition juive. C'est un jour férié où les Juifs voyageaient vers le temple de Jérusalem, lorsqu'il était encore debout, afin de ramasser leurs premiers fruits. Cette fête tombe exactement 50 jours après la fête de Pâques, Pessah en hébreu. Elle est également connue comme la fête des semaines. Les Juifs qui parlaient le grec lui ont donné le nom de Pentecôte, terme qui signifie 50e en gros. Cette année 2022, Juifs et chrétiens feront Pentecôte le même jour, comme ils ont fait Pâques le même jour. Shavuot ne possède pas, contrairement à Pessah et Soukhot, Soukhot c'est la fête des cabanes, ne possède pas de dimension véritablement historique dans la Bible hébraïque. Mais la tradition, les rabbins assurent que c'est vraiment en ce jour, 50 jours après la sortie d'Égypte, après le début de l'Exode, qu'a eu lieu le don de la Torah. Le Nouveau Testament lui-même n'évoque aucune fête
chrétienne
nommée Pentecôte, aucune. Ce qui s'explique aisément, car tous les chrétiens évoqués dans le Nouveau Testament sont des juifs. Certes, plus ou moins dissidents, mais toujours pratiquants des exigences de la Torah. Cette Torah qu'ils fêtent au moment de Pentecôte. La Pentecôte chrétienne, elle, pas tout de suite, on dit entre le 2e et le 4e siècle, a commencé à être célébrée et elle s'est voulue comme une réinterprétation de Shavuot. L'Esprit Saint descend sur les gens comme Moïse est descendu du Sinaï avec les tables de la loi. Cette fête réinventée s'est évidemment distinguée puis ensuite totalement séparée du sens même de la fête originelle et aussi du sens évidemment, mais des obligations rituelles qui allaient avec cette fête dans la tradition juive. Les recommandations, les obligations rituelles. Et c'est là le nerf de mon plaidoyer. Et je veux l'illustrer par une phrase que certains ont déjà entendue parce que j'ai tendance à la ressasser. J'ai entendu une fois un membre actif d'une église, et je rassure les membres ici présents et les autres pas là non plus, que c'est pas cette église-ci, dire un jour devant moi, pas à moi, Pentecôte, poser cette question, Pentecôte, c'est quand Jésus monte ou c'est quand il descend? Voilà. J'ai immédiatement vu dans cette question, consternante évidemment, un marqueur du niveau où nous pourrions en être. Non pas tant à cause de ce que ça révèle de non-connaissance de la Bible, ce qui est parfaitement, comment dire, compensable, mais non pas à cause même de l'absurde des termes de cette question, mais en ce que cette simple question révèle le niveau de déconnexion avec ce qui est censé nous fonder. Fonder notre pratique, à nous les chrétiens et à nous aussi protestants réformés. Alors on va repartir du commencement. Jésus était juif, bon, et il est resté jusqu'au bout, ça tout le monde maintenant le sait. Un juif pratiquant, ça on s'en rend un peu moins compte. Un juif galiléen, ce qui produit chez lui une nuance assez importante avec le judaïsme de Judée, donc judéen, qui se déroulait autour du temple de Jérusalem. Son éducation a été fort probablement essentiellement pharisienne. Et ces pharisiens, là, étaient un peu en dissonance avec ceux qui tenaient le temple de Jérusalem. Les disciples de Jésus, pendant l'actualité de Jésus, et aussi après la mort de celui-ci, les premiers croyants en Jésus le Messie, Jésus-Christ, étaient aussi des juifs pratiquants. Et à ce titre, eh bien, ils faisaient des pèlerinages, ils célébraient les fêtes, et tenez-vous bien, ils sacrifiaient des animaux au temple de Jérusalem. Et c'était la première église. Évidemment, jusqu'à ce que ce temple tombe sous les assauts des Romains. Jésus était un passionné de la Torah et connaissait ses références par cœur, ainsi que les prophètes, ainsi que d'autres textes qui n'ont pas été recueillis dans nos Bibles occidentales, comme le livre d'Enoch, qui évoque la notion du Fils de l'homme, ce Fils de l'homme que vous voyez constellé beaucoup de paroles de Jésus. Mais le message de Jésus était explicitement, volontairement réformateur. Il ne voulait non pas simplifier, surtout pas évacuer, mais même réduire, mais il voulait réhumaniser l'application de la Torah. Et une des phrases les plus significatives de son engagement, et vous savez pour beaucoup ce que je vais dire maintenant, il a dit un jour, « Le sabbat est fait pour l'humain et non l'humain pour le sabbat. » Comme ça, c'était bien clair. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de sabbat. Nuance. C'est pourquoi le premier mouvement des croyants au Christ, avant mais aussi après la destruction du temple, et y compris dans sa diversité, était finalement un judaïsme messianique d'une part, avec Jésus-Christ, avec comme centre, et aussi comme espérance, puisque ces gens-là attendaient le retour de ce Christ, de ce Messie. Mais ce mouvement était aussi un judaïsme qu'aujourd'hui on pourrait qualifier de libéral sur certaines règles, en particulier sur certaines règles alimentaires. Puis ce mouvement, vous le savez, s'est transformé en institution, une institution à la genèse complexe, sur laquelle je passe, une institution qui a pris son indépendance d'avec les pratiques juives, mais qui a réinventé des formes d'obligations et de rituels. Et ces obligations n'ont rien eu à envier au caractère obligatoire et on va dire cartographique sur toute l'existence humaine. On dirait que l'Église s'est inventée elle-même en étant saisie d'une grande peur du vide et a reconstruit des obligations et des rituels sur ce qu'elle avait, de façon assez provocatrice, laissé tomber. Mais bien sûr, sauf pour les savants, il ne sera plus explicitement connu ce lien que tous ces soi-disant nouveaux rituels avaient avec la signification des anciens rituels ou fêtes, ou pèlerinages, ou jeûnes, ou interdictions sexuelles, et j'en passe. Alors on va faire une ellipse, qui n'est possible que parce que justement c'est un plaidoyer. Aujourd'hui, plus grand monde, y compris ceux qui savent encore le sens chrétien de la fête de Pentecôte, ne fait le lien entre ce don de l'Esprit, célébré en ce jour, et la fête de Shavuot, qui célèbre le don de la Torah. Et c'est dramatique. Et pourquoi c'est dramatique? Parce que cet esprit est justement donné, il racontait qu'il est donné à ces juifs pratiquants de toute la planète, connue de l'époque, hein, vous avez vu. Il est donné cet esprit pour qu'ils deviennent capables d'interpréter cette Torah qu'ils fêtent ce jour-là. Ce n'est pas juste l'esprit pour l'esprit. Voilà, on a reçu l'esprit et hop là, On flotte pour rien faire, pour réaliser absolument rien. C'est comme ça qu'on a tendance à fêter la fête de Pentecôte. On reçoit l'Esprit et voilà. Non, l'Esprit, c'est pour interpréter la Torah, interpréter la Bible, interpréter sa vie, interpréter tout ce qu'il y a à interpréter. C'est le souffle pour interpréter. Voilà cette Torah dont les premiers croyants au Christ sont au bénéfice parce qu'elle est dans leur cœur et leur pratique, mais aussi parce que celui qui est au centre de leur foi, ces premiers chrétiens, on va dire, Jésus de Nazareth, était lui-même un interprète de cette Torah et qui a été lui-même au bénéfice de l'Esprit qu'il a reçu au moment de son baptême. Aujourd'hui, et particulièrement chez les protestants, on n'a plus beaucoup de rituels révélant d'où nous venons. Alors, les protestants historiques avaient des rituels qui correspondaient à leur foi particulière et qui leur permettaient de ne pas être totalement coupés de l'ambiance messianique des premiers croyants au Christ. Ils avaient quoi ? Ils avaient la lecture et la méditation quotidienne de la Bible et bien entendu de l'Ancien Testament, qui était très valorisé parce qu'ils se reconnaissaient dans l'historique de ce peuple qui avait été persécuté et qui a erré dans le désert, à tel point qu'ils ont nommé des endroits où ils se réfugiaient le désert. Mais ils se reconnaissaient aussi dans les plaintes, les louanges et les prières des psaumes, comme celui que Isabelle et Nicolas vous ont lu en introduction de ce culte. Ils pratiquaient régulièrement des cultes de maison, et pas uniquement parce qu'ils ne pouvaient plus le faire dans une assemblée publique. Ils faisaient la lecture et le chant des psaumes en commun. Ils avaient la prière personnelle. Ils attachaient une énorme importance à l'instruction et la transmission de la religion aux enfants par les parents, comme ce commandement essentiel de la Torah, hein. Ils participaient aux assemblées quand elles étaient autorisées. Et qui fait cela aujourd'hui ? Je veux dire, de façon comme si ça faisait partie de lui-même. Pas grand monde. Et qui aujourd'hui se rend compte que oui, il pourrait y avoir une ritualité typiquement protestante et qui aurait du sens ? Certains parmi vous le savent, je reste affligé de l'abandon par le christianisme du commandement le plus cité dans la Bible et considéré comme le plus important de tous les autres et même générateur de tous les autres, à savoir le commandement du sabbat. Il s'agit d'obéir à la prescription d'avoir accompli dans une semaine tout ce qui était nécessaire à accomplir. Je ne parle pas de toute sa vie, mais en une semaine, se projeter en 6 jours pour accomplir tout ce qu'on doit accomplir. Puis, le 7e jour, cesser toute forme de productivité. 24 heures à consacrer à soi, à sa famille, à la lecture, à l'étude, à l'art, à la vie communautaire. Franchement, on peut le faire. Il y a quelques années, j'ai proposé à cette paroisse un marqueur sabbatique pour un temps de prière hebdomadaire commençant le samedi soir et en invitant les personnes à considérer que ces 24 heures suivantes, y compris le culte, pouvait être consacré. Mais disons-le, ce genre de changement, ça ne peut pas être qu'un truc du pasteur. Ça doit être produit par une prise de conscience collective, ça doit être voulu par un conseil presbytéral et validé par une assemblée générale enthousiaste. Donc ça s'est tombé à l'eau. On n'a pas réussi à prier une fois par semaine, ensemble, ou alors se retrouver à 2, 3, voire moi-même seul. Donc du coup, je suis allé prier chez moi parce que c'était plus pratique. Alors aujourd'hui, en effet, je nous ressens comme des particules flottantes, y compris moi-même, hein, je me mets dans la barque, hein, évidemment, essayant parfois de nous raccrocher à ce qui reste d'une forme de religion devenue extrêmement libérale, dans le sens où chacun est juste invité à faire son parcours spirituel, à trouver ses propres marques, en prendre ceci, laissant cela, etc. Hein, on dirait vraiment que c'est un message conservateur que je vous livre. Mais en ayant oublié et souffrant certainement de l'effacement du sens de ce qu'il continue à faire, y compris parfois pour les fêtes carillonnées, comme ce culte de Pentecôte, qui célèbre le don de l'Esprit qui nous donne la capacité d'interpréter la Bible, mais aussi de lire le monde. Il ne s'agit pas que de lire la Bible, il s'agit de lire la Bible pour savoir lire le monde et nous-mêmes, évidemment. Et aussi de savoir se défendre, puisque cet esprit, vous l'avez entendu peut-être dans le texte, est appelé par Jésus défenseur, avocat, savoir se défendre, justement, des autres formes envoûtantes de spiritualité servile que propose ce monde, ne serait-ce comme servilité, celle de n'être jamais en repos, d'être toujours connecté. Je conclus ce plaidoyer par un appel à revivifier, à rendre de nouveau consistante notre façon d'être en Église et à retrouver le sens de ce que nous faisons et demander l'Esprit et puis le recevoir et à retrouver l'Esprit de ce que nous faisons. Amen.
Thank you.